Il est 18h15 à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou, qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp sur le 80 06 88 54. Comment prévenir les inondations dans la ville de Niamey? C'est le thème de notre forum d'aujourd'hui. Au Niger, chaque année, on assiste à des catastrophes naturelles telles que des inondations dans plusieurs localités. Selon la ministre de l'Action humanitaire, les dégâts causés par les pluies enregistrées au Niger en 2023 se résument à 19 185 ménages sinistrés, ce qui représente un total de 161 647 personnes touchées par ces inondations. Le bilan de ces intempéries fait également état de 3 238 têtes de bétail perdues, 12 088 maisons effondrées et 1 795,64 hectares de cultures inondées. Cette année, selon la Direction générale de la protection civile DGPC, à la date du 5 juin 2024, les inondations causées par les dernières pluies ont tué 13 personnes sur l'ensemble du territoire nigérien et fait 15 blessés. La même source rapporte que ces intempéries ont également sinistré 2 933 personnes réparties dans 381 ménages. La perte de 325 têtes de bétail est également à déplorer. Alors, quelles sont les mesures prises pour prévenir les inondations dans la ville de Niamey cette année? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons sur ce plateau M. Sekou Abdelaziz, chef de service d'hygiène et assainissement de la ville de Niamey. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Madame Ramtoulaye Abdoulaye, du service information et relations publiques de la Direction générale de la protection civile. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et monsieur Marou Issoufou, chef de quartier Nenigungu. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation. À la présentation, je suis Zainab Abdou et la technique est assurée par Amina Hassan. Comme annoncé dans les titres, aujourd'hui, nous allons débattre sur la prévention des inondations dans la ville de Niamey. Mais avant de commencer, écoutons d'abord la réaction de quelques citoyens de Niamey à propos des inondations.
Vraiment, la ville de Niamey a besoin de réhabilitation, car c'est seulement les grandes voies qui ont été réhabilitées. Aujourd'hui, si je dois quitter Bobiel pour me rendre au plateau, je suis obligée de faire un grand tour, car les voies sont impraticables. Nous lançons un appel aux autorités nigériennes de vraiment prendre des dispositions. Nos voitures sont gâtées. Le peu qu'on gagne, au lieu de l'investir dans l'entrepreneuriat, malheureusement, tout répare au garage.
En commençant par Niamey, on peut dire que Niamey, qui est la capitale du Niger, est installée tout juste au bord du fleuve Niger, qui aujourd'hui est en train de connaître ce qu'on appelle un ensablement qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire tous les lits du fleuve aujourd'hui sont pris par les sables et qui amènent certains riverains, c'est-à-dire certaines populations, à s'installer pour dire que le fleuve est parti, il ne reviendra plus. Maintenant, avec une forte pluie, vous allez voir, en germain on dit Harzursun Fondatang, donc vous allez voir que, c'est-à-dire que l'écoulement de l'eau là ne dévie jamais son sens. C'est de ça qu'il s'agit, et vous allez voir que un peu partout, quand il y a une forte pluie, c'est les inondations. Alors, pour pouvoir éradiquer ce fléau, l'État doit commencer d'abord à travers le ministère de l'Aménagement territorial et créer les conditions de voir, de suivre à la lettre l'ensemble des quartiers périphériques qui sont logés sur les lits du fleuve et créer les conditions de leur réinstallation tout en leur créant toutes les conditions nécessaires pour que ces derniers puissent être dans des conditions optimales au moins à vivre. La deuxième chose, il faut créer les conditions de désensabler le fleuve Niger, bien qu'on peut dire que c'est un programme qui peut prendre beaucoup plus de temps. Mais la seule chose qu'on est sûr de ne pas obtenir, c'est celle qu'on n'a jamais essayée. Donc je pense que l'État peut créer les conditions de voir comment est-ce qu'il faut procéder à ces désensables. Surtout avec le programme du barrage de Kandaji, ça va beaucoup plus les aider. Et en dehors de ça, il faut créer les conditions, parce que l'inondation, ce n'est pas uniquement la ville au bord du fleuve, même dans la ville de Niamey aujourd'hui, c'est pathétique. Quand vous allez voir après, quand il sera le mois de d'août, par exemple, qui est reconnu comme le mois le plus pluvieux de l'année, vous allez voir qu'un peu partout, il y a des quartiers qui sont impraticables. Pourquoi ? Parce qu'il y a une stagnation de l'eau qui va empêcher à ce que même ceux qui sont véhiculés de prendre le sens de ces voies-là. Voilà pourquoi il faut créer les conditions de multiplier les caniveaux et respecter le sens de l'écoulement d'eau. Parce que même le lotissement, ces derniers temps, on dirait que ceux qui sont à la charge ne connaissent pas bien leur travail, ils font les lotissements en compte courant de l'écoulement de l'eau. Et du coup, les familles sont beaucoup plus exposées quand il pleut, parce que tout simplement, l'eau suit toujours son sens d'écoulement.
Donc, avec l'approche de l'hivernage, c'est donc dès à présent que les autorités devaient faire le curage des fosses dans la ville. Il y a également des endroits qui sont délaissés, sans entretien. Les ordures sont abandonnées, les fosses sont remplies. C'est un sérieux problème de santé. La mairie doit approcher la population pour savoir leurs souhaits. La mairie ne vient pas, même en cas d'inondation, car l'année dernière, nous avons été victimes, personne n'est venu. C'est le manque de curage qui est la cause des inondations, parce que dans les quartiers, des fosses ont été créées, elles ne sont pas entretenues. Dans les normes, on devait les fermer pour éviter que ces fosses ne se remplissent pas d'ordures déversées par la population et les eaux de ruissellement. Et puis souvent, après le curage, les déchets enlevés sont laissés et déversés une fois encore dans la fosse.
Alors, chers invités, vous venez de suivre la réaction de certains citoyens de la ville de Niamey. Donc, je commence par vous, M. Marou Issoufou. En tant que chef de quartier, que pensez-vous de leur réaction?
Merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler sur les inondations, parce que c'est une chose que j'ai moi-même vécue. Donc, par rapport à ce que j'ai écouté, certaines réactions, c'est la réalité. D'autres aussi, vraiment... Je pense que bien la population de Niamey, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est arrivé, vous n'allez pas dire que l'État. L'État, nous sommes tous de l'État. Parce que notre capitale, notre ville de Niamey, il faut qu'on comprenne que nous-mêmes, il ne faut pas qu'on attende l'État seulement. La mairie seule ne peut pas travailler sans la population. Ils ont parlé des canaux et autres. Il y a des gens qui, s'ils prennent leur
déchets,
Il les verse là où ils veulent. Donc, tout ça, là. Vraiment, il faut qu'on sensibilise la population de Niamey. Il faut qu'ils sachent que leur quartier les appartient. Leur ménage les appartient. Maintenant, ils se sont comportés à la je m'en fous. Donc, ça veut dire que vraiment, ils vont vivre avec des problèmes. Toujours des problèmes. Et quant à l'autre, il a parlé de... Les gens sont en train de construire dans les zones inondables. Et c'est vrai aussi. Ça aussi, il faut qu'on sensibilise les gens de ne pas construire dans les zones inondables. Parce que je vous dis, le fleuve Niger est ensablé. Donc, surtout quand je vous parle à la commune 5, c'est le bras du fleuve qui les inonde. Moi, je vis dans l'île Néngongo. Mon village était une île. Maintenant, ce n'est plus une île. Ce n'est qu'une presque île. Parce qu'aujourd'hui, nous, à nos aïeux, à nos grands-parents, à nos parents, ils ont trouvé l'île durant toute l'année, c'est l'île. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que le bras est ensablé. Aujourd'hui, il y a des jardins, il y a des cultures dans le lit du bras même.
C'est-à-dire qu'il y a des cultures que le fleuve a inondé.
Non, c'est-à-dire que le bras est ensablé. Le bras est venu à niveau maintenant. Il ne prend plus son eau. Ça veut dire que les deux bords-là se remplissent. Donc, vous avez vu, dès que l'eau arrive, où est-ce qu'il va aller? Il va chercher la ville, il va chercher les villages et les quartiers. Et à part ça aussi, les gens oublient quelque chose aussi. Et Moi, j'ai toujours en parlé, même il y a une comité qui se trouve au primature. Et je les ai dit de faire vraiment, de veiller sur la filiale-là. C'est la Sirba qui inonde Niamey. Donc vraiment là-bas, et je vais en parler, je vais dire l'État, de prendre ces mesures, de voir comment stopper la pression du Sirba.
Là, on va en parler dans les solutions.
D'accord.
Nous reviendrons à vous.
D'accord, merci. Ok, tant mieux.
Donc, je viens à vous, monsieur Sekou Abdelaziz. Que pouvez-vous nous dire par rapport aux réactions de la population ?
Tout d'abord, nous vous remercions vraiment pour ces opportunités que vous nous donnez, afin de pouvoir bien sûr échanger avec certains de nos partenaires, tels que les chefs de quartier, la protection civile, et également de pouvoir donner un certain nombre d'avis et d'informations à la population. Alors, effectivement, nous avons entendu un peu les réactions des populations, des uns et des autres. Il est vrai que depuis un certain temps, à chaque moment où il y a bien sûr l'approche de la saison hivernale, et c'est vrai que les populations de Niamey appréhendent cette saison avec certaines inquiétudes, d'autant plus qu'ayant connu un certain nombre de désagréments les années précédentes, du point de vue du thème d'aujourd'hui qui est l'inondation dans la ville de Niamey. Alors, dans un premier temps, moi, je vais dire que oui, certaines réactions sont un peu plus ou moins vraies, mais néanmoins, ça nécessite aussi de partager une certaine connaissance avec ces populations pour qu'elles puissent savoir aussi quelles vont être, bien sûr, leur part de responsabilité et où, bien sûr, les solutions qu'elles peuvent apporter. A priori, d'abord, il faut aussi connaître un peu le biophysique également et la géologie de la ville de Niamey. Vous savez que la ville de Niamey, bien sûr, forme une enclave, bien sûr. Nous n'allons pas citer un peu pas mal de ces termes techniques. Je vais tout simplement dire...
Il va falloir définir c'est quoi une enclave pour les auditeurs.
Oui, bon, du moins, oui, on dit que la ville de Niamey est une forme d'enclave, n'est-ce pas, dans le département de Kolo. Et elle est située un peu dans la partie sud-ouest du Niger, entre les latitudes 13,56 degrés sud et entre les longitudes 1,58 degrés et 2,15 degrés est. Alors, son altitude est comprise entre les 160 mètres et les 250 mètres. Et vous allez voir que ses limites administratives s'étendent sur 252 kilomètres carrés, dont aujourd'hui, il y a environ 255 kilomètres de superficie urbanisée. Bien sûr que ça évolue avec, bien sûr, l'aménagement urbain qui se fait, et j'en viendrai là-dessus. Alors, vous voyez, c'est pour dire que la zone de Niamey, dans un premier temps, est un secteur de contact entre deux grands ensembles, n'est-ce pas, géologiques, dont le socle de l'Iptako et le bassin sédimentaire des Ulimeden. Alors, la ville de Niamey en elle-même se trouve en majeure partie sur le bras, bien sûr, sédimentaire des Ulimeden. Donc, c'est pour dire que aussi, elle se trouve sise en bordure du fleuve, n'est-ce pas, sur les terrasses de la rive gauche, pour ce qui concerne surtout l'implantation de l'ancienne ville historique. Ainsi, dans les vallées alluviale également du fleuve et ses contreforts des terrasses pour ce qui concerne la rive droite. Alors c'est pour dire que vous verrez que la rive gauche qui a du moins dont la plus grande partie de la population se trouve ou du moins dont l'aménagement urbain est beaucoup plus développé, elle est à même niveau que bien sûr le fleuve. Hein, vous allez voir qu'elle a le même niveau que le fleuve, d'autant plus que de l'autre côté du 5e arrondissement qui est la rive droite, elle est un peu plus surélevée, elle est en bordure sur des plateaux et également sur des bras alluvionnaires du fleuve. Alors qu'est-ce qui se passe? Et également, la ville de Niamey a une certaine structuration. Nous avons tout autour de la ville un certain nombre de bassins versants, n'est-ce pas, qui ont également un rôle à jouer, hein, et compilés à l'aménagement aménagement urbain qui n'est pas du tout maîtrisable aussi avec l'exponentialité de ces nouveaux quartiers, de ces lotissements à un temps qui était presque libéral, qui n'était pas contrôlé par la mairie mais plutôt par le ministère de l'équipement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que de par cette non-conciliation ou du moins organisation de ce schéma, de cet aménagement urbain avec en relation avec les infrastructures d'assainissement. Les infrastructures d'assainissement aussi, il faut vous le dire, nous avons une importante quantité d'infrastructures d'assainissement dans la ville de Niamey. Aujourd'hui, si on doit l'évaluer, elle est de l'ordre de plus de 200 kilomètres. Donc, si on prend, ça doit faire quelque chose de 200 000 mètres linéaires dans la ville de Niamey. Et à certains endroits, le réseau là est extrêmement fonctionnel. Mais comme je vous le disais, avec bien sûr cet urbanisme qui avait été difficilement maîtrisable du fait de l'accroissement rapide bien sûr de la population et de la structure foncière et de l'organisation institutionnelle, la ville de Niamey s'est étendue hein, à partir de son centre historique situé dans le bassin versant du Guntuyéna, hein, et le petit affluent bien sûr du fleuve et constitué de quartiers résidentiels datant, n'est-ce pas, parfois de la période colonienne, ainsi que des quartiers plus populaires à forte densité. Alors, ces anciens quartiers-là, vous verrez que le réseau est un réseau bien pensé, est un réseau unitaire et ça prend en charge en son temps, vraiment, toutes les pluies qui pouvaient venir et en son temps également, il y a ces spécifications de ces bassins versants qui jouent leur rôle. Au même titre que le fleuve qui est en train de se s'ensabler, ces bassins versants-là se sont ensablés. Du coup, le rôle qu'elles doivent jouer de temps de concentration de ces eaux de pluie pour permettre également avec certaines de nos spécifications techniques, comme on le dit, les meaning strikers, pour pouvoir d'abord, il y a le temps de concentration, le temps de ruissellement de ces eaux pluviales avec leur vitesse également de ruissellement conformément aux infrastructures qui doivent les recueillir avaient été bien pensées. Mais avec cet urbanisme qui n'était pas maîtrisé à un temps et qui se faisait sans contrôle souvent des services techniques ou si je peux dire de la municipalité, il y avait eu l'avènement des lotisseurs privés. Ils lotissent, les terrains sans pour autant respecter les cahiers de charges d'aménagement qu'ils doivent faire, soit les routes, soit bien sûr les infrastructures d'assainissement. Alors, vous voyez tous ces facteurs compilés. Donc, on a l'aménagement urbain, on a l'accroissement de la population, et également ces infrastructures qui sont un peu plus ou moins, obstruées et aussi le rôle que devraient jouer ces bassins-là qui ne le jouent plus. Elles sont ensablées, alors elles n'ont plus de temps de concentration. Quand il pleut, c'est directement que ces eaux-là, bien sûr, se déversent sur la population. Aussi, les facteurs qu'on doit aussi prendre en compte, il y a bien sûr le facteur de ce phénomène de changement climatique-là. C'est bel et bien véridique. Ce n'est pas une politique occidentale, c'est une vérité naturelle qui est là, qui fait que nous avons des eaux qui peuvent tomber bien sûr, en un temps record, on peut en quelques minutes ou en quelques heures recevoir des eaux qu'on pouvait peut-être recevoir pendant 2-3 jours, qui peuvent en venir en une heure, deux heures de temps ou du moins vice-versa. Contraire. Donc vous voyez, tous ces facteurs-là, toutes ces spécifications-là doivent être prises en compte pour pouvoir bien sûr d'abord exposer le problème d'inondation et ou bien sûr du moins les mesures qu'on doit prendre, les mesures préventives. Alors, les populations ont tout à fait raison d'appréhender cette saison avec inquiétude, puisque, comme je le disais dans mon introduction, on a connu certains désagréments. Et bon, après ces désagréments-là, nous sommes rentrés, bien sûr, en connaissance et également avons approfondi les connaissances par des études qui nous ont amené aujourd'hui avec le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique à réfléchir sur un document cadre qui est le schéma directeur d'assainissement. Ouais. Aujourd'hui, ce document cadre nous permet bien sûr de faire asseoir toute la stratégie politique et également d'intervention, de prévention de tout ce qui est des questions d'assainissement conformément à la zone urbaine de Niamey, conformément bien sûr aux typologies et ou à la granométrie ou aussi je peux dire les modèles numériques de chaque zone et de chaque quartier. Et même des scénarios ont été proposés. Et d'ailleurs, je vous dis, suite à cela...
Oui, monsieur, nous viendrons à cette partie tout à l'heure.
D'accord, oui.
Donc, je viens à vous, Madame Ramoutelet. Et donc, c'est toujours la même question aussi. Donc, quelle est votre réaction par rapport à ce que la population a dit?
Ok, merci Madame pour l'occasion que vous nous offrez d'assister à ce forum aussi important. J'ai suivi avec attention les différentes interventions. Pour ma part, je peux dire que les inondations restent et demeurent un défi.
Donc c'est comme la population l'a dit, c'est un défi et pour l'État et pour la population.
Et pour la population, oui.
Donc, je reviens à vous, Monsieur Sekou Abdelaziz. Quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de la ville de Niamey dans le cadre de la prévention des inondations de la ville de Niamey cette année?
Comme à l'accoutumée, vraiment, les mesures que nous prenons, conformément bien sûr à nos attributions et les offres de services, bien sûr sociaux de base que nous faisons, et surtout, bien sûr que cette activité et cette offre de services est l'une des pierres angulaires de la gestion urbaine de nos autorités municipales, qui est la gestion des déchets, qui est bien sûr la gestion du réseau d'assainissement. Donc ceux-là sont les mesures bien sûr que nous prenons, c'est-à-dire que c'est des mesures préventives. C'est quoi la mesure préventive? Il faut bien sûr débarrasser la ville de Niamey d'un certain nombre de dépotoirs qui sont soit sur les talvegs, donc les talvegs c'est le cours d'eau, et où bien sûr cette gestion du réseau d'assainissement que nous faisons communément appelé le curage des caniveaux dont les populations font allusion. Alors je vous disais que nous avons un important réseau d'assainissement de la ville de Niamey, aujourd'hui de l'ordre de près de 200 km, hein. Donc d'où même pratiquement les 47 voire les 57%, c'est un réseau à découvert. C'est quoi le réseau à découvert? C'est des réseaux de surface, et vous allez voir que le restant du pourcentage de ce réseau là est un réseau enfoui, ou plus ou moins ce que nous appelons le réseau souterrain. Alors c'est tous ces réseaux là sont entretenus à titre préventif, bien sûr, pour ces inondations-là dans la ville de Niamey. Alors, qu'est-ce que nous faisons également à l'approche de la saison? Nous accentuons beaucoup plus cette question d'entretien de ce réseau d'assainissement-là. Et n'oublions pas que nous avons également différents types aussi d'inondations qui se passent dans la ville de Niamey. Car les inondations d'une zone ou d'un autre quartier n'est pas la même chose qu'un autre quartier. Ce qui fait que...
Les inondations diffèrent selon les quartiers, ils ont des différents...
Absolument, nous avons des typologies d'inondations qui diffèrent selon les quartiers dans la ville de Niamey aussi. Bon, ne serait-ce qu'on ne reste pas qu'à là, ce qui fait que les programmations de prévention que nous faisons, je vous disais, que nous accentuons beaucoup plus la prestation de services dans la gestion du réseau, bien sûr, en s'attaquant beaucoup plus sur les exécutoires. C'est quoi les exécutoires? D'abord, c'est le réseau primaire, aussi, c'est de savoir les différents types de réseaux que nous avons. Nous avons les réseaux primaires, les réseaux secondaires et bien sûr le réseau tertiaire. Ce réseau primaire là, vous allez voir que c'est les grands canaux d'exécution à l'image du Guntuyena qui est l'exécutoire, et également nous avons des grands collecteurs dans la ville de Niamey qui collectent un ensemble d'eau de deux ou de trois zones pour pouvoir bien sûr alimenter cet exécutoire là du bras du Guntuyena qui est aussi un bras du fleuve. Aussi, nous avons le problème bien sûr des colis, car vous savez, l'importante quantité d'eau qui inonde la ville de Niamey, c'est bien sûr des alimentations des cours d'eau temporaires ou des courris qui ceinturent un peu la ville de Niamey. Donc bien sûr le plus important, c'est le courris de Walam, n'est-ce pas, et son affluent du courris de Goudel Gourou. Alors cette succession de plateaux et de vallées est la morphologie type des paysages de la région de Niamey. Alors,
et à ce niveau, qu'est-ce que vous faites?
À ce niveau, c'est ce que je disais. Donc par exemple, dans ce document cadre du schéma directeur d'assainissement, il a été prévu bien sûr un ensemble, toute une batterie de solutions à faire, puisqu'il faut d'abord surcreuser ces bassins versants pour leur donner un peu plus de capacité de rétention d'eau. Il y a la gestion de ce réseau d'assainissement, et au vu, comme on vous l'a dit, de l'expansion urbaine qui s'est passée, aussi faire un certain nombre de maillages de réseaux de ces quartiers-là dépourvus de réseaux via bien sûr le réseau existant. Alors,
Les les inondations dans les quartiers dépourvus de réseaux sont plus importantes que celles qui ont des réseaux?
Bon, un peu plus ou moins, d'autant plus que aussi ça relève de certains facteurs. Car n'oublions pas également, il y a la main de l'homme. Vous allez voir que souvent, les quartiers, à leur origine, elles sont bien loties, malgré qu'elles soient dépourvues de réseaux d'assainissement. Mais souvent, la main de l'homme, en faisant des remblais, en faisant des retouches, en faisant ceci, cela, il dénature la topographie des zones. Donc, du coup, ils amènent un certain nombre de changements dans le sens de l'écoulement des eaux. Alors, on ne s'arrête pas qu'à là. Et souvent, pour ces types de quartiers, vous verrez que c'est juste quelques petits aménagements de voirie qu'il faille faire. C'est juste des dépressions ou juste faire des reprofilages de ces voies. Et aussi, de façon technique, nous-mêmes, nos services, qu'est-ce que nous faisons? Et nous procédons à faire des tranchées d'aménagement dans ces quartiers. Donc, tout ça, c'est des batteries de solutions que nous prenons.
C'est-à-dire le système de connexion que vous avez trouvé.
Voilà, voilà. Et aussi, aujourd'hui, je pense bien que pour pouvoir pallier à ces questions, d'ores et déjà, il y a eu certaines réalisations qu'il y a eu dans la ville de Niamey, hein, et également au profit.
Quelles sont ces réalisations?
Par exemple, vous verrez juste ici, à côté de vous, derrière, au niveau de Tayamana, par exemple, il y a eu la réalisation d'une chaussée drainante, n'est-ce pas, qui s'est passée également au niveau de la Cour des comptes, au niveau de Bassora et également au niveau quartier Boubiel ici à côté. Vous verrez qu'il y a un nouveau réseau d'assainissement qui a été érigé. Bien sûr, c'est un collecteur pour prendre bien sûr en charge les eaux de ces zones-là plus ou moins à problème. Et aussi, ce n'est pas que cela. D'autres tracés sont en train de venir, d'autres réseaux sont en train de venir pour pouvoir toujours conforter ce que nous avons déjà et afin de pouvoir bien sûr pallier aux questions d'inondation et à cette inquiétude également de nos populations.
D'accord, monsieur Sekou, nous reviendrons à vous. Donc, je reviens à vous, monsieur Mar Issoufou. En tant que chef de quartier, quels sont les impacts de ces différentes catastrophes sur la vie des habitants de votre quartier?
En tout cas, moi, mon village a beaucoup eu des impacts parce que, vous savez, moi, mon village se trouve au 5e arrondissement et Nenegungu, c'est une île. Donc, moi, je vis dans une île. Sur le fleuve et aux périodes de crue, c'est à ce moment que le village est île. Mais aux périodes d'étiage, ce n'est qu'une presque île parce que c'est le bras qui nous forme une île. Sur le bras a pris de l'eau, ça veut dire que le village est dans une île.
Donc, et quand
ce n'est plus une île. Actuellement, maintenant, les véhicules passent, les motos passent, tout le monde passe vers la mort, vers le 5e arrondissement maintenant. Donc, moi, ce que je veux de l'État, parce qu'ils ont fait au 5e arrondissement une digue de protection. Donc, au niveau de mon village, moi, je peux dire que mon village a été écarté du 5e arrondissement. Selon le bras a deux bords. Donc, et normalement, s'ils sont venus faire une digue de protection, on va prendre toutes les deux bords. Ils ont pris une seule bord de l'autre côté, la rive droite. Ils ont fait une digue de protection.
Donc, la digue n'est pas arrivée à votre niveau?
Sans autant protéger vers mon village. La digue qui se trouve vers mon village, ils ne l'ont pas protégée. Donc, vous avez vu autant des inondations, la digue nous a beaucoup menacés.
Donc, la digue empêchait l'eau de passer?
Oui, c'est-à-dire, et quand vous prenez le bras du fleuve, il a deux bords. Il y a l'auberge gauche, il y a l'auberge droite.
Oui.
Maintenant, ils ont pris l'auberge droite pour faire une digue de protection.
Du côté droit?
Du côté droit. Donc, et moi aussi, mon village se trouve dans l'hiver, le côté gauche. Et de côté droit aussi se trouve le fleuve Niger même en personne. Donc vous avez vu, mon village n'a pas eu cette protection. Parce que moi, si les gens arrivent, il faut vraiment impliquer les riverains. Parce que c'est les riverains qui savent là où se trouvent les problèmes. Quelqu'un qui vient de Difa, on dit qu'il est un technicien, il est venu dans une île pour faire une digue de protection, sans pouvoir impliquer les riverains. Donc vous avez vu, nous, lorsqu'on est en train de faire les digues, on a vu que le digue même, les gens sont en train de faire dans le rue du Blanc même, du bras du fleuve même. Vous avez vu ce que ça va causer. Ils ont repris trois fois cette digue-là pour que maintenant les inondations passées, ça les a protégés. Parce qu'au début, il y a quelqu'un qui passait de village.
Donc, cette fois-ci, la digue arrive à vous protéger?
Non, à les protéger. Moi, jusqu'à maintenant...
Jusqu'à présent, votre quartier n'est pas protégé. Donc, il y a des cas d'inondation dans votre
quartier. Jusqu'à maintenant, il y a des cas d'inondation dans mon village. Et je peux vous dire que...
C'est les maisons qui sont inondées ou bien vos champs?
Je vais vous dire, c'est-à-dire, lorsque la digue a réussi, moi, au temps des inondations, l'eau a même déchiré mon village en deux parties. Donc vraiment, mon village a beaucoup souffert. Ils ont beaucoup vu des inondations. Et moi, j'ai toujours en parlé que vraiment, ça ne va pas dans les villages. Et qu'est-ce que les autorités... Bon, les autorités sortant, et ils nous ont dit de dégager, de quitter, de laisser les villages. Et ce n'est pas possible. Là où nos aïeux sont, nos grands-parents sont nés, nos parents sont nés. Et puis, moi, je les ai dit que c'est vrai, c'est une île, mais il y a des endroits qui se trouvent en hauteur. Donc, de regagner là-bas, que l'État vienne de nous aider vraiment, de voir comment faire, même si c'est un lotissement ou bien quelque chose comme ça, de voir installer ma population en hauteur. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Même si on leur dit de ne pas construire, ils vont revenir construire là-bas dans le village. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Donc, si l'eau se retire, ils vont revenir. Actuellement, j'ai des gens qui sont revenus aux zones inondables pour construire.
Donc, l'eau s'est retirée maintenant.
L'eau s'est retirée maintenant. Maintenant, on est dans la période d'étiage.
Donc, et si on est... Lorsque la crue va arriver.
Voilà, la crue va arriver. Donc, il faut voir si la crue est venue maintenant. On fait des digues traditionnelles comme ça. Dans tous les villages, c'est comme ça. C'est des digues traditionnelles que les villageois sont en train de faire. On a les pelles et les pioches là qu'on utilise pour faire des digues. Ça, ce ne sont pas des digues. Parce que quand l'eau arrive, ça va céder. Donc, vous avez vu.
Ok. Les inondations dans votre quartier ont-ils eu pour conséquence des décès et des maisons tombées?
Bon, concernant aux pertes vie humaine, il n'y a pas eu. Parce que vraiment, en tant que riverain, en tant que des gens qui vivent dans une île, qui connaissent l'eau, donc les gens se sont organisés vraiment pour empêcher ça. Mais au niveau du bétail, il y a eu beaucoup de bétail qui sont partis et des ménages qui sont effondrés.
Des maisons qui sont tombées.
Oui, des maisons qui sont tombées sur des matériels, sur de l'argent même, parce qu'il y a une dame là, on l'a même attrapée. Elle a voulu rentrer prendre son argent. Donc, nous, on a dit de ne pas accepter pour qu'elle rentre. Et c'était devant elle que la maison a effondré. Donc, il faut voir si on l'avait laissé partir. Donc, vous avez vu, c'est des problèmes comme ça qui se trouvent vraiment dans mon village.
Vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, au niveau des cultures aussi. Toutes nos cultures sont parties. Les arbres fruitiers, les cultures. Après, les zones de pâturage se sont inondées. Il n'y a aucune solution de vivre dans le village. Les pêcheurs n'ont pas des zones de pêche encore. Vraiment, la vie est très difficile pour le village. Et c'est les trois facteurs. Et c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche qui fait la population là-bas.
Merci, je reviendrai à vous. Donc, je viens à vous, Madame Ramtala Abdoulaye. Dans votre direction, quelles sont les dispositions prises pour prévenir les inondations?
Au niveau de la Direction générale de la protection civile, mais avant, permettez-moi de présenter la Direction générale de la protection civile, qui est une des directions générales relevantes du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Elle a pour mission principale la protection des populations, des biens et de l'environnement contre les risques et calamités de toute nature. Au niveau de la Direction générale de la protection civile, un dispositif a été mis en place qui permet de surveiller les niveaux d'eau dans la rivière et les bassins versants et d'émettre des alertes en cas de risque d'inondation. Le Centre opérationnel de veille d'alerte et de conduite des crises, appelé COVAC, qui est une structure multi-acteur logée au niveau de notre direction, grâce aux données du COVAC, qui est équipé de technologies satellitaires avancées, des drones déployés au plus fort de la catastrophe peuvent évaluer les localisations et l'étendue des inondations. Nous travaillons aussi en collaboration avec la ville de Niamey pour mener des campagnes de sensibilisation à l'égard de la population, de quitter les zones inondables, de ne pas jeter des déchets solides au niveau des caniveaux.
En cas d'inondation, qu'est-ce que la protection civile envisage de faire?
En cas d'inondation?
Oui, dans le cadre de la prise en charge.
Pendant les inondations, la DGPC s'occupe du recensement des sinistrés, de les reloger si possible et de les accompagner à travers la distribution des assistances.
Donc, je reviendrai à vous sous peu. Monsieur Marou Issoufou, c'est ma prochaine question s'adresse à vous. Mm-hmm. En tant que citoyen, quelles actions menez-vous pour prévenir les inondations?
Donc, pour prévenir les inondations, moi, au niveau de mon village, et les villages périphériques aussi, je sensibilise les gens vraiment de faire attention, de ne pas construire dans les zones inondables, d'éviter ça, et de ne pas aussi travailler dans les de ne pas cultiver dans les endroits inondables parce que c'est des pertes.
Vos sensibilisations, vous les faites seules ou bien en collaboration avec la mairie?
Bon, pas avec la mairie. Pas avec la mairie. On a voulu quand même que ça soit avec la mairie. C'est ça qu'on attendait quand même, parce que si c'est avec la mairie, ça serait plus efficace qu'en tant que chef de village ou bien entre villageois. Donc vous avez vu, mais si on a eu la mairie qui nous accompagne dans ces actions-là, ça sera sérieux. Les gens vont prendre ça un peu du sérieux. Vous avez vu. Et de voir aussi, c'est-à-dire si les inondations, si l'eau est en train de rentrer, le fleuve est en train de prendre...
La crue
est en train de prendre. On a vu que vraiment les inondations sont arrivées parce que si les digues sont à niveau, on va dire aux gens de vraiment de prendre l'air et de quitter les endroits. Si les gens refusent, on fera de tout pour que les gens quittent là-bas. Pour qu'ils abandonnent leur habitation avant que l'eau arrive. Ça, on a toujours géré ça ensemble dans le village. Je gérais ça avec des sages dans le village.
Monsieur Sekou Ablazi, tout à l'heure, Madame Ramtoulay a évoqué une collaboration entre la mairie et la protection civile. Et en cas d'inondation, est-ce que la mairie intervient dans la gestion et la prise en charge des sinistrés?
Oui, un peu plus ou moins, puisque avec le partenariat avec la DGPC et également un certain nombre de partenaires techniques et financiers, et voire même en son temps le ministère des Affaires humanitaires et de gestion des risques et catastrophes. Vous voyez, souvent quand il y a des sinistrés, après le travail de tous ces autres partenaires, il revient à la ville souvent de situer le site qui devrait abriter bien sûr ces sinistrés-là. Et au-delà de l'indication du site qui abrite les sinistrés, souvent la ville toujours avec ses partenaires participe même à cette identification-là statistique des impactés et aussi participe vraiment aux activités d'assistance en matière de quitte vivre ou de quitte non vivre auprès de ces populations-là aussi. Car vous savez bien que souvent les populations utilisent bien sûr les établissements scolaires qui sont dans la ville de Niamey et avec, comme je le disais, les partenaires. Nous participons souvent même à approvisionner, bien sûr, ces populations-là en eau potable par les citernes de la ville de Niamey. Et souvent aussi, même pour pouvoir, on aménage même des terrains pour eux. Donc, en amenant toute l'armada de la ville de Niamey, toute une logistique, en faisant des terrassements, bien sûr, quelques apports latéritiques, et même avec les partenaires aussi, on installe, bien sûr, des tentes qui abritent ces derniers-là. Alors, la ville, elle est vraiment à cheval de bataille à chaque fois. D'abord, elle ne souhaite pas, bien sûr, qu'il y ait des inondations à plus forte raison d'avoir bien sûr des impactés ou des sinistrés. Donc, ce qui fait que toutes les dispositions qu'elle doit prendre ou qu'elle peut prendre, elle les prenne pour pouvoir bien sûr prévenir tout cela. Car bien sûr, il faut aussi connaître un peu le rôle des uns et des autres. Pour la ville de Niamey, c'est bien sûr la prévention. On fait tout pour prévenir, on fait tout pour que, bien sûr, ça n'arrive pas. Donc, c'est l'un des rôles vraiment régaliens de la ville de Niamey et surtout de nos services techniques. Car vous verrez que les eaux pluviales, bien sûr, les eaux pluviales doivent être tout simplement recueillies et évacuées dans un réseau public d'égouts et de caniveaux. Et autres systèmes, bien sûr, s'il en existe à cet effet. Car, et aussi le régime de ces eaux pluviales lors des limites des concessions permet, doivent se faire sans porter préjudice, bien sûr, au voisinage. Vous verrez également que L'assainissement des eaux pluviales, aujourd'hui, je l'avais dit, je l'ai introduit dans le SDA, le schéma directeur d'assainissement, a été étudié de manière, bien sûr, à résorber les zones d'inondation existantes en les optimisant, prendre en compte également les besoins de réhabilitation de certains réseaux existants et prendre aussi en compte les zones d'urbanisation futures. Donc l'assainissement pluvial des zones proprement dites et incidence sur les zones urbanisées. Alors, vous voyez, ça c'est un des rôles, et comme je l'ai dit, c'est une pierre angulaire et une mission régalienne de la ville de Niamey et des autorités vraiment qui la gèrent. Car la gestion urbaine, c'est ça la gestion urbaine. Il y a toute une transversalité là-dedans et également, il y a toute une chaîne de responsabilité où à chaque maillon de responsabilité, vous verrez bien sûr qu'il y a des actions qui sont en train d'être posées par rapport à cette question.
Merci beaucoup, M. Sekou. Donc, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, nous sommes maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui dont le thème était « Comment prévenir les inondations dans la ville de Niamey ?» Pour répondre à nos questions d'aujourd'hui, nous avons reçu comme invité Mme Rahmatoulaye Abdoulaye, du service information et relations publiques de la Direction générale de la protection civile. Merci beaucoup, madame, de nous avoir répondu. Monsieur Marou Issoufou, chef du quartier Nenigungu, merci beaucoup de nous avoir répondu, monsieur. Et monsieur Sekou Abdelaziz, chef service hygiène et assainissement de la ville de Niamey. Merci beaucoup, monsieur. Nos invités ont évoqué que les inondations de la ville de Niamey ont pour cause la non-maîtrise de l'urbanisation, la croissance démographique. Et pour pallier à ces problèmes, avant l'arrivée de la saison des pluies, la mairie effectue un assainissement des caniveaux, essaie de débarrasser la ville de certains dépotoirs. Et des sensibilisations sont organisées et par la mairie et par les chefs de quartier. Au niveau de la protection civile, ils disposent d'un service qui veille sur le niveau de la montée des eaux. À la présentation, je suis Zainab Abdou et la technique était assurée par Amina Hassan. Au revoir.